Marc Durand qui était de passage dans nos studios hier dans Marceau Soir à 18h. Le podcast est disponible. Marc Durand qui est un journaliste qui a commencé à la radio communautaire dans le village Huron à l'époque. Par la suite, a réussi à se trouver un poste à TQS. Toi, t'as pas connu les premiers jours de TQS avec toute une équipe de journalistes extrêmement dynamique. Hey, c'était des enfants, il n'y avait pas de barbe. 18, 19, 20, 21 ans. Ils ont réussi à faire la barbe à ceux qui étaient présents depuis des années et des années. C'était le bulletin de nouvelles le plus écouté à Québec parce qu'ils ont amené un dynamisme complètement différent aux nouvelles.
Mais là, tu veux dire en 86, quand TQS a ouvert, ou après? Parce que moi, je me souviens des années 90 et ça, c'est fou.
Tu te souviens de la jeune Josée Turmel?
La jeune Josée Turmel, un Jérôme Landry.
Coupe courte, là.
Oui. Mais puis c'est drôle, hier, je vous écoutais. Puis, ça me fascine à quel point ils pouvaient faire quelque chose de différent dans ces années-là parce que les gens étaient encore très, 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 très postés devant leur écran de télévision.
Exact.
Fait que quand t'offrais quelque chose, il y avait assurément des curieux qui adhéraient. Puis c'est là où je me suis posé des questions par rapport à la TV traditionnelle hier. Mais c'était vraiment fascinant de vous écouter.
Ouais. Puis tout était pensé. Je pensais que c'était de la créativité, mais tout avait été écrit d'avance. Quand on va faire, Josée va parler de telle nouvelle, après ça, elle va se promener puis elle va aller rencontrer un journaliste. Mais le caméraman va suivre Josée pour aller rencontrer le journaliste. C'était pas une caméra fixe comme on avait dans les années 80-90. Là, ils se sont améliorés un peu des dernières années, mais TQS amenait un vent nouveau quand c'est arrivé à Québec, puis ils ont réussi à faire la barbe à TVA. C'est Pierre Jobin, il hallucinait.
Oui, mais il y avait aussi...
C'est qui les petits jeunes?
Il y avait aussi beaucoup de fronts autour de la tête à suivre des accusés au palais de justice de Québec dans leur bottine. Oui. Il était présent un peu partout.
Exact. Non, c'était une belle rencontre avec Marc Durand, que je ne connaissais pas tant. Tu sais, moi, Marc Durand, pour moi, c'est une encyclopédie. Là. J'ai lu ses livres qu'il a réalisé, ses documentaires. J'en ai vu quelques-uns, celui sur Guy Lafleur. Tu sais, je me souviens de l'avoir vu aussi. Puis j'étais persuadé, moi, qu'il était comme en pré-retraite, tu sais, qu'il était parti de Radio-Canada en disant « Bon, on va faire 10-15 heures par semaine. » C'est pas ça pantoute, là, comme tous les bonhommes qui disent « Oh, je vais prendre ma retraite jeune. » Après 3 mois, il travaille plus qui travaillait avant, puis il fait des documentaires. Des fois, on peut les voir sur diverses chaînes de télé comme RDS, comme TVA Sport. Fait que on a mis le podcast disponible sur dlvd.fm, sur vos applications aussi, c'est là. Parlant d'un gars qu'on aime bien aussi, c'est Louis Gauthier, chroniqueur international. Salut Louis!
Bonjour Québec!
Comment ça va
aujourd'hui?
Ben oui!
Ça va bien parce que j'écoutais ton podcast hier, puis c'était un plaisir de rentendre un ancien collègue de travail, Marc Durand, parce que j'étais là à cette époque-là, la grosse année. Je suis rentré en même temps qu'Aimon Filion à TQS.
Ah oui?
Je faisais le bulletin de soir, ben oui, puis on a eu un gros party l'été dernier chez Christian Rouleau, d'ailleurs, on s'est tous réunis là. Gino Chouinard était là, Christian, il manquait seulement Stéphane. Stéphane n'était pas là. Il y en avait deux là, qui n'étaient pas là, de mémoire.
C'est vrai,
toute la gang était là.
Gino Chouinard était à TQS. C'était Monsieur Météo. Il se promenait faire de la promotion et tout ça. Bon Dieu, que le temps a changé pareil.
Hein? Eh oui, on est tous vieux, mais on travaille encore plus qu'on travaillait dans ce temps-là.
C'est ça. Mais vous êtes tous de même, votre génération. Vous pensez arrêter pendant 2-3 ans, puis finalement, c'est 2-3 mois, puis vous faites des promesses à vos femmes en disant « Non, chérie, à ma retraite, on va prendre plus de temps ensemble. » Puis après ça, vous prenez 1001 projets, puis c'est reparti la machine.
Bien, c'est juste un peu différent. Aujourd'hui, on travaille plus pour être sûr que notre tendre et charmant douce moitié ait une très belle retraite dorée.
Pascal, qu'est-ce que t'en penses? Hey, Louis Gauthier, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Là? Trump continue de gagner un peu partout. Là.
Breaking news, Mitch McConnell a annoncé qu'il ne se représentait pas, le représentant au Sénat des Républicains, 82 ans, du Kentucky. Bon, ben lui, en novembre, c'est ciao-bye, c'est fini sa carrière politique. On dirait que c'est la sortie de tous les politiciens de Washington, là, après 30 ans là, de politique active au Capitole, ben on décide de passer ailleurs. Et à 82 ans, ben, je pense que le temps est venu, hein, parce qu'on voit les dommages que ça peut faire là, si on reste trop longtemps. Puis, alors ça vient d'être annoncé. Là. Il a annoncé ça à son retour de lunch aujourd'hui.
Donald Trump qui remporte la primaire républicaine du Michigan devant Nikki Haley, ça ne te surprend pas?
Oui. Non, ça me surprend pas. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en même temps, c'était les primaires pour les démocrates. Puis on sait que c'est seulement Joe Biden qui se présente pratiquement pour les démocrates. Mais c'est un vote particulier du côté des démocrates parce que oui, on a voté. Mais on a voté pour une enveloppe vide. C'est-à-dire, on n'a pas voté pour Joe Biden, mais on a voté pour, je te dirais, le ticket démocrate. Puis ça, on dit que c'est peut-être un vote de contestation de la majorité musulmane, parce qu'il y a beaucoup de musulmans ici au Michigan, surtout dans la région de Dearborn, Lincoln Park, Détroit, tout ce coin-là. Ces gens-là n'appuient pas Joe Biden parce qu'ils trouvent qu'il n'en fait pas assez pour mettre un point final au conflit qu'il y a entre la Hamas et Israël. Et il y a beaucoup... Alors, les gens se sont prononcés de cette façon-là. Et ça pourrait changer la donne lors des élections à l'automne, parce qu'il y a tout le temps un 11 000 de votes qui se promènent d'un bord ou de l'autre. Comme la dernière, quand Trump avait remporté les élections contre Clinton, c'est lui qui avait rapporté ça. Puis là, la dernière fois, bien, c'est Biden qui a remporté le fameux 11 000. Mm-hmm. Ça se trouverait, ce vote de contestation-là qui se promène. Puis vous savez une chose, hein, que Dearborn, au Michigan, il y a l'appel à la prière, hein, le vendredi.
Ah, oh, je ne savais pas du tout.
Oui, ça c'est... Il y a peu de personnes qui savent ça. Mais il y a l'appel à la prière. J'aurais jamais pensé qu'on aurait connu ça un jour aux États-Unis. Mais pourtant, ça se fait. Puis c'est l'endroit où ça se fait. Puis c'est à même pas une demi-heure là, du pont Ambassadeur. Là. De l'autre côté de Détroit, c'est Windsor. Puis on sait qu'à Windsor, il y a une bonne population musulmane qui est là. Alors, on ne sait pas encore qu'il y a à Windsor, mais on sait qu'à Toronto, Brampton, Minnesota, il y a des appels à la prière qui sont faits. Mais ça m'a surpris qu'à Détroit, quand même le parc automobile nord-américain, là, Détroit, c'est quand même conservateur de nature. Et de savoir qu'on a ça à Dearborn, là, qui est vraiment, pour les gens qui savent, là, c'est un petit peu à l'ouest de Détroit, puis c'est là qu'il y a des gros parcs automobiles maintenant, là, les nouvelles usines. Alors, c'est un vote hier qui est quand même surprenant pour les démocrates. Ça se pourrait fort bien que Trump remporte le Michigan là, à cause de ce qui s'est passé hier.
OK. Est-ce que... parce qu'on a régulièrement parlé de ça, là, les Obama qui sont encore très près de la présidence de Biden. Est-ce que Barack Obama appelait sa délicieuse conjointe Mike? Est-ce que Mike pourrait faire un retour dans l'entourage, peut-être un peu plus près là, du président?
Bien, tu sais, Yannick, là, on en parlait la semaine dernière, tu m'as parlé de ça, puis moi, ça m'a tout le temps surpris. Mais depuis que tu m'as glissé ça à l'oreille la semaine dernière, c'est quelque chose de voir à quel point Michelle Obama est importante et qu'il y a énormément de tractations qui se font présentement. Beaucoup d'analystes ici aux États-Unis en parlent. Au mois de mai, il va se passer quelque chose. Parce que là, il y a beaucoup de gens au Congrès qui s'interrogent sur l'état cognitif du président. En l'intérieur même du Parti démocrate, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment le cheval de course qu'on doit avoir pour gagner la fameuse course? Et là, on se rend compte qu'on ne peut pas le présenter devant Donald Trump parce que Donald Trump est en train de tout gagner. Puis ça va se confirmer mardi prochain au Super Mardi. Là, c'est sûr que Nikki Haley, ça veut rester. Elle reste, je ne sais pas pourquoi, mais à partir du Super Mardi, c'est là qu'on se rend compte que qu'on sépare les hommes des enfants à ce moment-là. Et là, ben, on se rend compte que ça va être Donald Trump et Joe Biden qui vont avoir un rematch. Est-ce qu'on veut voir Joe Biden affronter dans des débats? Là, on se posait la question, comme je disais la semaine dernière, les démocrates, est-ce qu'il y a un moyen de ne pas participer aux débats télévisés, aux débats radiophoniques, peu importe les débats, contre Donald Trump? Mais ça serait mal vu parce que ça montrait encore un signe de faiblesse, puis les Américains ne voudraient pas avoir un président trop faible qui n'est pas capable de débattre. Donc, à ce moment-là, on va peut-être bien décider au mois de mai. Bien, Michelle Obama, c'est peut-être la carte cachée.
Ouais. Écoute, c'est ce que je pense depuis des mois. Là. Je regarde beaucoup ce qui se passe sur Twitter concernant la politique américaine. Puis Mike revient souvent là, dans les discussions sur Twitter. Puis c'est des journalistes là, qui suivent le beat quand même. Est-ce que, pour moi, la politique, c'est House of Cards. Là. Je ne sais pas si tu as écouté cette série-là. Mais...
Oh, sauf la portion où on jette quelqu'un sa ligne de train. Là.
Ah, des fois, ça peut arriver. Laisse-moi dans mes rêves. Mais est-ce que Mike pourrait faire le débat à la place du président, sachant très bien qu'on pourrait peut-être la choisir comme vice-présidente?
Non, ça peut. Tu peux impossible. Pas parce que ça te prend une pomme contre une pomme. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas mélanger les personnes. Tu ne peux pas arriver et dire, bien là, c'est le vice-président qui va affronter le président, parce que c'est des questions de sécurité nationale qui sont parlées, des questions de politique internationale qui sont discutées lors des débats, de politique économique. Tout ce qui a l'adage du discours présidentiel. Alors, tu ne peux pas mettre une personne pour dire, écoute, on va faire partir quelqu'un du quatrième trio pour venir faire la mise au jeu protocolaire en première période, ça ne se fait pas, là. Alors, si c'est Michelle Obama, c'est parce qu'on va avoir convaincu, puis la porte est facilement ouvrable du côté de Joe Biden de se retirer pour des raisons de santé. Et maintenant, bien, est-ce que Kamala Harris, de facto, devrait être la personne? Et c'est peut-être sur ce point-là qu'on s'interroge. Je crois que la décision est prise selon Joe Biden. OK, mais on tasse Joe Biden. Va-t-on mettre Kamala Harris? On est mieux de laisser Joe Biden là. C'est la question qu'on se pose à l'intérieur même du Parti démocrate. Alors, à ce moment-là, vu qu'on n'est pas à la dernière minute pour avoir un nouveau candidat qui se lance dans la course, bien, au mois de mai, c'est la date fatidique pour qu'un dernier candidat se présente dans la course démocrate et décide de se lancer. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on mettrait Michelle Obama et que Joe Biden déciderait de se retirer à ce moment-là.
OK. Puis, à la présidence des États-Unis, là, entre Trump et Michelle Obama, qui tu penses qui pourrait passer avant l'autre?
Bien, écoute, je vais parler de la façon dont un Américain va penser présentement. On est passé très près, en 2016, de porter à la présidence américaine la première femme. Je me suis toujours dit, est-ce que ça sera la prochaine? Je mettais comme 16 ans, à partir de ce moment-là, ou 8 ans, avant qu'on ait une présidente féminine aux États-Unis. Maintenant, si c'est le cas, est-ce que les Américains, si on sont prêts à faire ce move-là, mais on se rend compte que le taux de participation est faible présentement, on s'attend à un taux de participation faible, on s'attend à revoir Donald Trump s'asseoir à la Maison-Blanche. Donc, la question se pose, est-ce que là, on serait prêt à avoir une femme, mais une femme de couleur? La question se pose parce que oui, le racisme existe aux États-Unis, puis encore très présent, puis de toutes ses formes. Alors, est-ce que le vote américain serait prêt à signer, à faire sa croix sur le bulletin de vote à côté de Michelle Obama pour ces questions-là?
Bien, moi, je pense que Mike ne serait pas mon premier choix, mais je veux dire, c'est une femme extrêmement brillante, c'est une femme qui paraît bien, c'est une femme qui est capable de faire face à l'adversité.
Très éduquée, quand elle connaît très bien les dossiers.
Exactement. Fait que oui, peut-être que les Américains, on a voté, on a quand même mis Obama président des États-Unis, là. Donc, si on a la chance de mettre une femme, pourquoi il ne le ferait pas? Est-ce qu'on fait la différence encore en 2024 entre un homme et une femme? J'ose espérer que non, là. Pour ce qui est de la présidence,
du moins. On espère tous que ce n'est pas le cas, mais c'est malheureusement le cas.
OK.
On ne peut pas dire que des habitudes qui durent depuis des siècles et des siècles se changent en claquant des doigts. Puis, c'est long. La preuve, les deux seuls candidats potentiels qu'on a à la présidence américaine, c'est des octogénaires.
Ouais.
T'sais, on est rendu là. On est rendu à 82 ans, puis on dit, bien là, je pense que je vais passer à d'autres choses. Michelle O'Connell, le matin, puis il y en a d'autres qui vont se présenter. Toute la vieille garde de Washington va se retirer. Mais on se retrouve encore avec deux candidats à la présidence américaine qui sont octogénaires. Alors, ça démontre l'écœurité aiguë de l'électorat américain, là.
Effectivement. Louis Gauthier, un gros merci. T'es dans quel secteur, là? Tu te promènes tout le temps, t'es tout le temps sur la route, là.
Bien, je suis sur la 75 Nord, dans le pays de Kid Rock, Northern Michigan.
Ouais.
Alors, je vais revenir à Québec dans le coin du 20 mars.
Ouais. T'as-tu déjà calculé, tu fais combien de kilomètres par année? Parce que tu voyages à travers le Canada, tu voyages à travers les États-Unis. Tu fais combien de kilomètres à peu près?
Bien, écoute, en 18 ans, je suis rendu à 3,4 millions de milles de fait.
Puis quel est le plus bel endroit pour se promener en voiture?
Le plus bel endroit,
ouais.
La planète au complet.
Ah, moi, c'est la route 66. Je l'ai faite une fois, puis je vais la refaire lorsque mes gars auront leur moto, puis on va partir les trois, le père avec le vieux père avec les deux enfants en moto, puis on s'en va sur la 66.
Moi, la plus impressionnante que j'ai vue, c'était l'Interstate 5, qui part comme de Nashville vers San Diego, Okay, qui est quand même complètement au sud, là, sur le bord de la frontière, le Rio Grande à ta gauche quand tu t'en vas vers San Diego.
C'est ça, t'as le Pacific.
Et c'est, de voir...
c'est pas Pacific Highway, ça?
Oui, t'as Pacific Highway, je parle de la 4, pardon. La 4, qui est au sud,
ouais.
Puis qui longe. Alors, t'es sur le bord du Rio Grande, là. Je veux pas me tromper d'autoroute, mais en tout cas, c'est celle qui longe, là, qui part de Nashville, qui s'en va vers San Diego, cette route-là. C'est une route à chiffre pair. Parce que ça va de l'est en l'ouest.
Ben
et
oui.
Il y avait énormément de policiers, d'armées. C'était dans le temps de la pandémie, là, où que ça traversait d'un bord puis de l'autre à la frontière. C'était quelque chose à voir.
Ouais.
Ça m'a jamais pris autant de temps de me rendre à San Diego dans ce temps-là.
Incroyable. Louis Gauthier, un gros merci. On se reparle la semaine prochaine, mon ami.
Yes. Bonne journée tout le monde. Bye, Québec.
Salut. Salut,
bye bye.
Québec. Louis Gauthier, chroniqueur international. Puis il te disait hier, d'ailleurs, que... quand il croisait des gens au dépanneur, les gens reconnaissaient sa voix parce que Louis a une voix très, très reconnaissable. Puis il disait, tu peux-tu me dire un « Salut, Québec! »«
Salut, Québec!
» Ça, j'adore ça. tu sais, des fois, on peut faire des dossiers puis se casser la tête, là, faire des gros dossiers, parler d'actualité, de l'opinion. Les gens se souviennent rarement de ça. Ils se souviennent plus des petites anecdotes.
Dans ce que tu viens de parler d'autoroute avec Louis.
Oui, c'est ça, ils vont s'en souvenir.
Ouais.
Quand Pascal Cévé avait fait venir un livreur Uber Eats ici à la station, j'avais moi-même payé avec le téléphone de Pascal le pourboire du livreur Uber.
150-200 piastres, une affaire de même. Ouais. Je ne sais pas, je vis dans le déni depuis.
Écoute, le gars, il a rappelé Pascal pour dire un gros merci.
Oui, puis son service avait été très mauvais. Il avait été bête en plus avec la réceptionniste.
13h11, on vient.
Marceau le midi.